13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Le moment est venu de notre escapade quotidienne en compagnie de Franck Ferrand, qui n'est pas à mes côtés aujourd'hui au studio Coluche d'Europe 1, mais en direct du musée de la Toile de Jouy en Josas. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous sommes en effet à Jouy, pas très loin de Versailles, dans la douce vallée de la Bièvre, dans un charmant petit château qui a appartenu à la famille du maréchal de Canrobert et qui est devenu en 1992 le musée de la Toile de Jouy. Car c'est ici, figurez-vous, c'est dans cette paisible vallée qu'a eu lieu l'une des aventures les plus fantastiques de la révolution industrielle en France. C'est ici, sous Louis XV, qu'un jeune immigré allemand est venu bâtir des ateliers, des imprimeries sur étoffe, des séchoirs gigantesques pour donner naissance à un produit manufacturé dont la beauté, dont la fraîcheur se confondent avec l'image que l'on se fait de l'époque des Lumières et de la Révolution, la fameuse toile de Jouy. Vous voyez évidemment de quoi je parle, Julia, ces toiles de Jouy ces cotonnades imprimées de fleurs, de rinceaux, de scènes de genre, des petits personnages bucoliques, des pastorales bleues, vertes, rouges, bistres, dont la finesse a révolutionné les décors de nos maisons depuis deux siècles. L'un des plus grands utilisateurs de la toile de Jouy. Celui qui l'a remise à la mode depuis une trentaine d'années, c'est un des plus grands décorateurs français mondialement célèbre et qui me fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui à Jouy en Josas, c'est Jacques Garcia. Bonjour Jacques Garcia.
Bonjour.
On peut dire que vous l'aimez, vous, la toile de Jouy. Et elle vous le rend reste.
Oui, enfin, je l'aime beaucoup. Je l'ai découvert, je racontais l'anecdote tout à l'heure, dans la maison Braconnier. Et c'est une maison qui, évidemment, réédite, qui a été reprise après par la maison Frey actuellement. Mais je voulais aujourd'hui juste évoquer la mémoire d'une femme qui a tenu, il y a 40 ans, Braconnier. J'y suis allé grâce à un ami qui s'appelait Edmond Contat, qui était l'ancien propriétaire du château de Montgeoffroy, qui est rempli de toiles de Jouy. Et cette femme était absolument fantastique. Parce qu'elle vivait non pas sa vie, mais la vie de la toile. Elle nous accueillait non pas pour acheter des toiles, mais pour nous montrer l'éventuelle nouveauté qu'elle pourrait faire copier. Et c'était pour moi, jeune homme de 20 ans, évidemment des moments d'extase et qui me poussaient à aller plus loin dans ce que j'ai pu faire après.
Alors on pourrait croire, lorsqu'on la connaît mal, et nous avons une heure devant nous pour redresser cette image, que la toile de Jouy a un petit côté vieillot, comme ça, on a l'impression que c'est pour la chambre d'amis dans la maison de campagne. En fait, vous êtes un de ceux qui lui avaient rendu une actualité, une modernité, vous l'avez remise à la mode.
Alors c'est amusant de penser, parce que vous savez, comme disait Chanel, la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est la mode, parce que c'est un gros désavantage,
c'est que ça se démode un jour. Voilà. Oui.
Donc si vous voulez, l'éternité de la toile de Jouy, elle est de tout temps, puisque même nous sommes en train actuellement de refaire des salles pour le Louvre, dont je m'occupe, et on est, entre autres, il y a une pièce merveilleuse qui était une des anciennes pièces pour mesdames, filles de Louis XV, qui avait les plus beaux meubles en laque, enfin les plus somptueux du genre, on imagine même pas la richesse de tout ça, c'est invraisemblable.
Donc on penserait qu'on va faire du brocart,
on va mettre du brocart
d'or.
Rocher d'or. Pas du tout, les murs étaient couverts de toiles de Jouy. Alors c'était pourquoi ça? Parce que je crois que de tout temps, et aujourd'hui, peut-être les voyages nous ont fait un peu perdre cette magie, c'est que l'idée de ne pas tellement pouvoir voyager, d'envoyer des émissaires dans le monde entier chercher les choses impossibles, faisait que finalement une potiche de Chine, elle était certainement pas mieux que finalement un vase de Sèvres, mais l'idée de penser qu'elle avait traversé les mers la rendait plus extravagante.
Et on peut dire que la toile de Jouy est un véritable univers de rêve. Avec vous, Jacques Garcia, tout à l'heure, nous allons visiter quelques-unes des plus belles pièces de ce musée, ici à Jouy-en-Josas, et nous aurons l'occasion de revenir, bien entendu, sur toutes les utilisations que l'on peut faire de la toile de Jouy et qui ne sont pas seulement des utilisations en matière d'ameublement. J'ai sous les yeux une très belle toile de Jean-Baptiste Huet. C'est une toile qui date de l'Empire, où l'on voit l'ensemble des manufactures dans cette vallée de la Bièvre. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au premier plan, vous avez des prairies sur lesquelles sont étendues, pour qu'elles sèches, pour qu'elles prennent leur couleur définitive, sont étendues des toiles de Jouy. Ce sont de grands laits de toiles comme ça qui transforment la prairie en une véritable symphonie de couleurs. Il y a quelque chose de magique. Je me promène toujours dans la rotonde d'entrée, dans le vestibule de ce château qui sert aujourd'hui de musée à la toile de Jouy, et j'arrive devant une autre toile qui représente Laure Oberkampf, donc la fille du célèbre Oberkampf dont je vais vous raconter raconter l'histoire dans un instant, qui est devenue par son mariage Laure Mallet. Il faut dire que deux des filles d'Oberkampf avaient épousé deux frères, les frères Mallet. Eh bien, ça tombe bien, nous sommes ici aujourd'hui en compagnie d'Étienne et d'Odile Mallet. Bonjour Étienne Mallet.
Bonjour.
Vous êtes non seulement le descendant direct, évidemment, de Laure Oberkampf, donc du créateur de la toile de Jouy, de celui qui en a eu l'idée, qui a fondé ici ses manufactures, mais vous êtes aussi le président de l'association des amis du musée de la toile de Jouy.
Absolument, c'est deux conjonctions de circonstances qui effectivement sont très motivantes.
Est-ce qu'on peut dire que ce musée sert aujourd'hui de creuset? C'est toute la mémoire de votre ancêtre qui se trouve contenue dans ces jolis murs?
Écoutez, de la mémoire d'Oberkampf, elle est fortement présente ici, certainement. Il y a à la fois Oberkampf, ce génial créateur de la toile de Jouy, et il y a toute l'aventure de la toile du Jouy, qui est une aventure humaine, qui est une aventure industrielle.
C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, et nous allons voir ça dans un instant, Oberkampf était le premier grand entrepreneur international, on peut le dire. Il a été celui qui est allé chercher les cotonnades partout en Europe et celui qui a su les vendre au monde entier. Odile Mallet, vous pensez que la toile de Jouy, aujourd'hui, est encore un objet fétiche pour le monde entier?
Moi, je pense, c'est d'ailleurs souvent plus connu à l'étranger qu'en France. Et moi, j'ai une faiblesse pour les indiennes par rapport aux petits personnages.
Qu'est-ce qu'on appelle les indiennes?
Les grandes cotonnades, les grands feuillages, les grands dessins, les styles cachemire.
Oui, c'est
et
ça.
Que Jacques Garcia connaît très très bien.
Et qui peuvent être utilisés dans toutes sortes de domaines. On va voir que ça ne sert
absolument
pas seulement à tapisser les alcôves des chambres.
Juste, je voulais dire qu'à l'époque, Oberkampf était le patron de la troisième entreprise française.
C'est une énorme industrie.
Oui.
On est au tout
derrière Saint-Gobain et les mines d'Anzin.
Voilà. On est au tout début de la révolution industrielle en France. Qui était-il, cet Oberkampf? D'où venait-il et comment s'y est-il pris pour mettre en place cette industrie qui, deux siècles plus tard, continue à faire rêver le monde? C'est ce que nous voyons dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Extrait du Stabat Mater de Pergolèse sur Europe 1. Nous retrouvons Franck Ferrand, toujours en direct du musée de la toile de Jouy à Jouy en Josas. Et maintenant, il nous raconte le parcours d'un grand entrepreneur international, Oberkampf.
Est-ce qu'on m'entend? Oui.
On vous entend très
voilà.
bien.
Voilà. Merci, Julien. Mais vous savez, ce sont les conditions du direct ici.
Oui.
Mais j'adore, moi, ce genre de déplacement. Ça donne toujours une petite tension très agréable. Je vous disais que cet Oberkampf était avant tout un immigré allemand, Christoph Philipp Oberkampf. Il a environ 20 ans quand il débarque ici avec son baluchon sur l'épaule. Il s'entendait assez mal avec son père. Il a claqué la porte de son premier employeur en France, qui était un employeur parisien. Ça s'était pas bien passé. Hein. Le chef d'atelier le considérait comme un ouvrier infidèle, cabaleur et fuyard. Vous verrez tout à l'heure ce qu'il faut penser de ce genre de qualificatif. Alors, à quoi ressemble-t-il ce jeune homme? C'est quelqu'un de très solide, de très déterminé, incontestablement. Et on peut dire que de ses traits émane une véritable bonté. Ce n'est pas évidemment son descendant qui va me dire le contraire, n'est-ce pas, Étienne Mallet?
Absolument. Je pense que c'était effectivement la solidité. Alors j'ajouterais le caractère extrêmement volontaire du personnage et sa perspicacité. Sa perspicacité, on y reviendra, parce que c'est quelqu'un qui a réussi finalement à se concilier tous ses adversaires. Car comme vous le disiez, il arrive baluchon, à l'épaule, allemand, ne parlant pas français, débarque comme ouvrier, teinturier, dans le bas du quartier Mouffetard, ce qu'on a aujourd'hui, ce qui est le bas du quartier Mouffetard. Là, il travaille au mieux et il se dit « mais je veux créer mon entreprise ».
Et il va le faire dès 1760 à Jouy-en-Josas. Il s'installe. Alors, il s'installe ici parce qu'on est tout près de Versailles et qu'à l'époque 1760, on est sous le règne de Louis XV. Tout se fait à la cour à Versailles, bien entendu, donc tout près d'ici. Et puis, il y a la Bièvre également. Il faut de l'eau. Hein,
pour il y a l'eau et le marché.
Voilà, c'est ça, exactement. Alors, ce qui est fascinant avec ce personnage, c'est qu'il aura traversé finalement tous les régimes. Il lance ses affaires sous Louis XV. Il est anobli par le roi Louis XVI. Il épouse les idéaux des Lumières. Vous me disiez tout à l'heure, d'ailleurs, c'était intéressant, qu'il était rousseauiste dans l'âme. Il va participer, on peut dire, à la Révolution, puisqu'on verra ici même se rendre le célèbre Couthon, l'infirme, le terroriste, terrible du comité de salut public, qui viendra, comme viendront par la suite, bien entendu, Napoléon, et puis un certain nombre de grands personnages. Nècre, déjà, du temps de Louis XVI, était venu. On a vu Marie-Antoinette venir se promener ici avec ses enfants. D'ailleurs, on avait organisé pour les enfants une sorte d'atelier d'imprimerie sur étoffe. Et puis, plus tard, l'impératrice Joséphine, bien entendu, il traverse comme ça tous les régimes. Il meurt en 1815. On a l'impression que tout ça passe sur lui comme l'eau sur les plumes d'un canard et que ce bonhomme-là est avant tout un entrepreneur, un commerçant. Est-ce qu'on ira jusqu'au terme d'opportuniste ?
Je dirais pas ça. Je dirais, d'abord, Oberkampf, ça veut dire au-dessus de la mêlée.
Eh oui, Oberkampf, au-dessus du combat, oui, c'est ça. Hein.
Et alors, donc, il a ce tempérament d'être au-dessus de la mêlée et de faire passer en priorité les intérêts, non pas les siens, mais ceux de son entreprise. Mmh. Et j'ajouterais qu'il est tolérant.
Eh oui, il faut dire qu'il est protestant dans un des principaux royaumes catholiques d'Europe et que ce protestantisme le mène aussi à une certaine discrétion. Il est toujours en retrait. Hein. On le voit lorsqu'un journaliste du Parisien, déjà un tout autre Parisien évidemment, sollicite un entretien, il répond « Il m'a toujours répugné d'être exposé à la publicité ». Voilà quelqu'un qui préfère s'occuper de ses affaires mais aussi s'occuper de ceux qui travaillent pour lui. Il y a une dimension sociale chez cet homme.
Une éthique sociale forte et quelque sorte d'avant-garde. Car il invente, comme grand entrepreneur, ce qui va être la sécurité sociale, en fait. Vaccin, aide médicale. Il aide ses ouvriers à être propriétaires de leur logement. Et à l'époque, si vous voulez, on dirait aujourd'hui que c'est du paternalisme. Mais si on se situe dans le contexte...
À l'époque, c'est de l'avant-gardisme, disons-le.
Absolument.
Nous revenons dans un instant sur Oberkampf et sur ses inventions extraordinaires en matière industrielle, en matière de manufacture. Nous y reviendrons en compagnie de la conservatrice des lieux, Anne de Toisy-d'Alem. C'est dans un tout petit instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous retrouvons Franck et ses invités en direct de la douce vallée de la Bièvre, au cœur du musée de la toile de Jouy.
Ah oui, si vous saviez comme c'est beau, Julien, on a le soleil qui essaie vraiment et un peu vainement de traverser les nuages. C'est comme un voile et c'est très beau parce que ça donne à tous ces décors du musée de la toile de Jouy une sorte de poésie particulière. Évidemment, il n'y a plus de lait de toile de Jouy qui sèche aujourd'hui dans les prairies de cette vallée de la Bièvre. Mais pour évoquer leur ancienne présence, pour évoquer ce passé glorieux, on a installé des plates-bandes tout en longueur qui ressemblent en fait à des laits de toile de Jouy. Et nous sommes ici dans un salon, dans la reconstitution de ce qui pouvait être l'intérieur de la famille Oberkampf, Anne de Toisy.
Tout à fait. Nous sommes dans le salon d'Oberkampf, donc avec des portraits du couple du manufacturier à droite, Oberkampf avec sa Légion d'honneur et sa femme Anne-Elisabeth Massieu.
Une Légion d'honneur qui lui avait été remise par Napoléon, qui avait retiré la sienne pour la lui donner, hein, c'est ça ?
Oui, Napoléon est venu récompenser Oberkampf à la manufacture en raison de tout le travail qu'il avait accompli contre les Anglais, donc avec sa production de coton imprimé.
Alors vous avez ici, dans les collections permanentes de ce musée, de véritables merveilles, un très grand nombre d'échantillons de morceaux de toile de Jouy du reste. Hein.
Oui, nous avons une collection qui commence à être très complète, très intéressante, avec plus de 10 000 pièces sur la toile de Jouy et également les autres manufactures de toiles imprimées, mais aussi beaucoup de tableaux et de gravures qui proviennent de la famille d'Oberkampf ou de dons de particuliers.
Alors pour ceux qui voudraient se spécialiser, mais enfin pour ceux que ça intéresse de très près, vous donnez tous les éléments pour comprendre comment on fabriquait la toile de Jouy. Et vous me disiez tout à l'heure qu'il est évidemment très complexe de l'expliquer en quelques mots, puisque le système d'impression, ce n'est pas simplement on ne met pas de l'encre sur des tampons et on imprimerait comme ça sur les toiles. En fait, il y a un système de révélateur. La couleur n'apparaît que dans une étape ultérieure.
Exactement. Donc ça, c'est un secret en fait qui a été volé par les missionnaires jésuites et les officiers de marine aux Indiens qui connaissaient ce secret depuis le néolithique. Et donc, c'est les propriétés de la racine de garance qui permet de lier chimiquement à la toile de coton.
La garance, ça donne quel coloris au départ ?
La garance donne les coloris autour du rose, du rouge, du violet.
Dans les rouges, quoi, oui.
Et donc, ça permet, en utilisant la garance, de lier indissolublement des sels métalliques, ça s'appelle les mordants, donc, à la toile.
Et donc, c'est ce qui va permettre de donner à tous ces coloris, non seulement la fraîcheur, mais aussi la résistance, puisque ce qui a fait sans doute la célébrité des toiles de Jouy, c'est qu'elles ne passent pas à la lumière, hein, elles restent très vives, enfin, elles passent peu, disons.
Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un engouement extraordinaire au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe, avec ces cotonnades qui ne passaient pas, dont les couleurs ne passaient pas au lavage, ni donc au soleil. Et donc, toute la noblesse en est emparée.
Il faut comprendre ça, bien sûr. C'était... Et puis, il y avait ce côté exotique de l'Inde, évidemment, enfin des Indes, disait-on à l'époque. D'où vient précisément le savoir-faire ? C'est un savoir-faire spécifiquement indien au départ ?
Alors, au départ, c'est vraiment spécifiquement indien, même si ça a suivi les routes de la soie. En passant par exemple par l'Iran, les Marseillais s'en sont emparés très tôt via donc les Arméniens et les routes du Levant. Dès le XVIe siècle, on en a, mais c'est vrai que ça arrive vraiment avec les grands vaisseaux au XVIIIe.
Alors là, dans de belles vitrines très pédagogiques, nous avons accès aux différents instruments qu'utilisaient les outils, devrais-je dire, plutôt qu'utilisaient les artisans, allez, disons, les artistes qui travaillaient ici dans les ateliers de la toile de Jouy. Il y avait au départ, il faut quand même le dire, des dessinateurs, évidemment. Il faut bien faire les motifs qu'on va reproduire.
Alors, c'est vrai que la manufacture de Jouy est très, très organisée, avec différents corps de métier. Et donc, l'atelier dessinateur en fait partie. Il y a également un atelier de graveur. Donc, à la manufacture sont attachés 4 à 5 dessinateurs pour tout ce qui est floral, motifs géométriques. Et on commande aussi à de très grands artistes. Comme
des scènes de genre.
Des scènes de genre.
Toutes ces pastorales, toutes ces histoires d'amour de berger, toutes ces scènes de chasse, etc., qui feront la célébrité de la toile de Jouy, sont dessinées, il faut le savoir, par quelques-uns des plus grands maîtres. On a parlé de Huet tout à l'heure, c'est le cas également d'Horace Vernet. Enfin, il y a un très grand nombre de ceux qui se sont au mieux illustrés dans les arts décoratifs ont travaillé pour Robert Kampf et pour ses descendants.
C'est vrai, les toiles les plus célèbres de la manufacture sont les toiles de Jean-Baptiste Huet, qui sont absolument superbes du point de vue de la composition et du point de vue donc de l'équilibre donc des motifs et du trait du dessin.
Alors là, nous avons des plaques, des planches de bois destinées à l'impression. On s'en sert au tout début de la toile de Jouy ?
Alors les moules de bois ou les planches de bois, comme on les appelle, sont inspirées des planches de bois qui sont utilisées en Inde depuis très très longtemps, toujours utilisées en Inde d'ailleurs. Dans les manufactures françaises, on a cessé de les utiliser vers la fin du XXe siècle. C'est tout récent.
Ah, donc on a continué de les utiliser jusqu'au XXe siècle.
Oui.
Ah voilà.
Oui.
Et quelle est leur particularité ? Pourquoi les utilise-t-on de préférence à ces plaques de métal, de cuivre que nous voyons dans la vitrine juste en face ?
Alors, on les utilise parce qu'elles permettent de varier les couleurs beaucoup plus que les plaques de métal, en fait, qui reprennent un petit peu l'impression comme pour les estampes. Donc, quand on a des toiles de différentes couleurs, on utilise le bois gravé. Par contre, les Européens vont inventer des techniques plus rapides et plus précises. Donc, par exemple, la plaque de cuivre qui a été inventée en Grande-Bretagne, suivie bientôt du rouleau de cuivre qui a été inventé à la fin du XVIIIe siècle, et qui permettait de gagner énormément de temps. Les ouvriers, quand ils ont vu arriver ces rouleaux, à Nantes, par exemple, ont appelé la machine la foudroyante.
Oui, ça va très vite, évidemment.
Oui.
Alors là, on a une très belle plaque de cuivre gravée, hein, c'est une merveille, gravée en creux, je précise. Elle est gravée à l'envers, on devait travailler au miroir, sans doute, je ne sais pas, par rapport au modèle, afin qu'une fois imprimée, évidemment, on retrouve le motif à l'endroit, par définition.
Oui, bien sûr, les plaques gravées sont à l'envers, comme pour le papier, et ensuite, on retrouve donc par l'impression le bon sens.
Et alors là, à côté, nous avons, j'allais dire, le même type de plaque en cuivre, mais qui cette fois a été disposée en rouleau, ce qui doit permettre une impression plus rapide, probablement.
Tout à fait. Donc là, vous avez Diane Chasseresse, mm-hmm. qui a un très beau motif de Jouy, qui a été dessiné par Huet, qu'on voit sur la gravure. Et donc, c'est vrai que ces rouleaux permettaient d'imprimer beaucoup, beaucoup plus vite, bien sûr, que les applications de planches par les ouvriers manuellement.
Je sais que Jacques Garcia nous attend là-haut pour parler d'un certain nombre des chefs-d'œuvre produits ici, à Jouy-en-Josas, dans les manufactures du célèbre Oberkampf. Nous le rejoignons donc dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Sur Europe 1 de Jules César en Égypte de Handel. Et nous retrouvons Franck qui nous fait aujourd'hui la visite en direct, s'il vous plaît, du musée de la toile de Jouy.
Attention, chef-d'œuvre, Julia. Nous sommes devant quelques-unes des plus belles productions de cette manufacture de Jouy, de cette manufacture créée par Oberkampf. Et du reste, en compagnie de Jacques Garcia, nous nous trouvons devant une vitrine où est exposé un des rideaux qui se trouvait dans la chambre d'Oberkampf. Un petit côté protestant, Jacques Garcia, hein, dans cette étoffe.
Oui. À la fois un petit côté protestant, peut-être par
la sobriété
des teintes, mais quelque chose qui pour moi me touche sur ce grand panneau, c'est l'éternité de la connaissance. Et je crois qu'on le ressent bien ici. Finalement, Oberkampf, en réinventant quelque chose, parce que finalement on ne fait que réinventer.
Oui, bien sûr, en reprenant cette invention indienne.
Et on le voit quand on parle d'indienne, finalement. L'indienne, ben c'est quoi l'indienne? C'est la Perse, c'est 2000 ans d'histoire. Et ces 2000 ans d'histoire, ils sont repris finalement 1500 ans après, ou quelque chose comme ça, pour les retraduire avec un sentiment du moment. Et justement, on parlait de la mode, avec ce sentiment de la mode. Mais c'est la force de cette chose-là. C'est quand on est face à cette vitrine, je crois que ça évoque pourquoi le 18e siècle et pourquoi la France, à ce moment-là, à travers des créations de ce genre, se trouve en tête de pont et finalement traduit l'effet du moment, c'est-à-dire être pile dans l'air de son temps.
Ouais,
et je crois
ça.
Que quand on voit cette vitrine, elle traduit bien l'air du temps du 18e siècle.
Dans cette vitrine, entre deux très beaux rideaux, donc qui sont issus de la maison même d'Oberkampf, quand je dis de sa maison, de son domicile particulier, nous avons des témoignages de certaines des très belles et très fines impressions qui se sont faites ici. Ce sont des impressions sur papier qui servaient, on ne sait pas exactement, soit d'essai pour voir ce que ça pouvait donner, soit de témoins de ce qui avait déjà été imprimé.
De témoins, et on sait également que, justement, on le verra plus tard dans l'exposition, on sait que finalement, avec d'autres manufactures, on traitait l'étoffe et on faisait le cordonné papier, comme on peut le voir.
C'est ça, voilà,
aujourd'hui.
Bien sûr.
C'est à ce moment-là qu'on réinvente ce genre de choses.
Ce qu'on appelle le cordonné, c'est-à-dire un même motif, une même couleur qui se retrouve sur des matières différentes.
Des matières différentes, et souvent avec, on le verra plus loin, le papier n'a pas de fond vermiculé. Ce qu'on appelle un vermiculé, c'est une impression avec des tout petits dessins qui se trouvent en fond de toile, et le papier n'a pas le vermiculé alors que la toile a le vermiculé, ce qui donne un jeu intéressant entre le soi-disant le même dessin qui ne devient plus tout à fait le même dessin.
Là, Jacques Garcia, on se croirait presque chez vous au château de Champ de Bataille dans l'Eure, avec un très beau lit à la polonaise dont toutes les pentes sont de toiles de Jouy.
Oui, alors moi j'ai toujours eu le goût du 18e siècle, même si à travers les lieux publics que j'ai pu voir, j'ai été surpris d'entendre tout à l'heure me dire que j'avais jamais dû tellement utiliser de toile de Jouy.
Oui, Anne de Toisy dit voilà, finalement vous n'utilisez pas tellement.
Alors j'expliquais très simplement que dans des lieux branchés entre guillemets, c'est peut-être pas la chose qu'il faut utiliser, mais pour les maisons, j'ai toujours utilisé la toile de Jouy, souvent d'ailleurs d'époque, j'ai été un des premiers acheteurs à Drouot à acheter des kilomètres de toile de Jouy. jouit du XVIIIe siècle et a aidé souvent, je vous le disais tout à l'heure, chez Braconnier, à faire des copies de ces choses-là.
Ce qu'il y a de fascinant et qu'on a presque oublié aujourd'hui parce que la toile de Jouy fait partie de notre environnement et on n'y fait peut-être pas assez attention, c'est que, chose totalement révolutionnaire, on introduit sur l'étoffe, donc dans le décor le plus familier, des motifs qui d'habitude appartenaient à la gravure ou à la peinture. On fait sortir du cadre le motif pour l'installer sur le mur ou le long de la fenêtre.
Oui, et on se sert même des moments d'histoire, parce que c'est encore plus important. On le voit ici dans les toiles que nous avons devant nous.
Ah oui, ça c'est passionnant.
C'est passionnant. On voit par exemple Louis XVI.
C'est Louis XVI qui, en fait, au départ, alors on avait ici un motif qui représentait Louis XVI protégeant la religion. On voit d'ailleurs la religion arriver, visage voilé, etc. Et puis, les temps étant ce qu'ils sont, et puisqu'Oberkampf travaillait essentiellement pendant la période révolutionnaire, eh bien on change le sujet et ça devient dans les années 1790 Louis XVI rétablissant ou restaurant la liberté et on voit carrément la prise de la Bastille.
Non mais c'est un paradoxe extraordinaire et on réajuste finalement à l'actualité.
Et sur cet autre motif de toile de Jouy également, on est là toujours dans des motifs qui sont d'un rouge très profond, sublime du reste. On a une évocation bien sûr de l'invention des frères Montgolfier et des premiers ballons, en fait, qui ont été sans doute la plus grande émotion de la fin de l'Ancien Régime.
Et évidemment, le ballon, bon, bien sûr, c'est le moment de monter dans les airs, c'est un symbole extraordinaire. Et puis, au centre, il y a eu quelque chose d'extraordinaire.
L'indépendance américaine
traduit, mais ce qui me touche le plus dans cette affaire, c'est l'indépendance américaine. On y voit évidemment des Indiens, mais on ne sait pas trop bien comment les représenter. Ces Indiens, ils sont finalement, c'est un peu comme la girafe quand on l'avait pas, la girafe de Louis XV, elle arrive, on ne sait pas
la
trop.
La girafe de Charles X.
Voilà, oui, mais déjà Louis XV, on avait dessiné une girafe pour Louis XV, et cette fameuse girafe, on ne sait pas trop comment elle est, donc finalement, elle ne ressemble pas à une girafe.
Non, elle ressemble à un animal légendaire.
Légendaire. Et c'est un peu la même chose ici, ces Indiens mesurent en gros 2,10 m de haut, alors qu'on sait que c'est évidemment un peuple qui était plutôt petit. C'est très intéressant, parce qu'on veut les... représenter avec un peu d'imaginaire.
C'est un reflet de l'imaginaire, cette toile de Jouy. Alors elle ne sert pas seulement à des fins d'ameublement, il n'y a pas seulement le meuble comme on disait à l'époque, il y a aussi la robe, c'est-à-dire qu'on peut utiliser cette toile de Jouy pour s'habiller. Et Dieu sait qu'on en a fait des robes.
Les gilets d'hommes, gilets d'hommes au XVIIIe siècle.
Les justes au corps aussi.
Les justes au corps, les robes de chambre. Les robes de chambre magnifiques. Moi, j'ai moi-même acheté une robe de chambre que j'ai toujours, d'ailleurs, à Drau, du XVIIIe siècle, en toile de Jouy, qui est en parfait état. Là, on a une jolie robe ici, avec un fond amusant, parce que je crois que le nom on nous a dit tout à l'heure.
Oui, c'est un fond ramoneur. Parce que au lieu d'être imprimé sur un fond blanc, là, voilà. C'est du noir, en fait. Ça donne une impression
très forte. Quelque chose d'intéressant.
Hein. Vous parliez de robe de chambre, Jacques Garcia. Il y en a une qui est exposée en bas dans l'exposition temporaire actuelle. On va visiter cette exposition dans un instant. C'est carrément la robe de chambre d'Oberkampf. Je vous propose de descendre l'escalier et d'aller visiter ça tout de suite.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
De la sonate Sopra il soggetto reale de Jean-Sébastien Bach pour accompagner Franck, toujours en direct du musée de la toile de Jouy.
Merci Julia, je vois que vous parlez tellement bien l'italien, ça me donne envie d'essayer d'en faire une émission en italien de ces jours.
Avec plaisir.
Nous sommes juste devant la robe de chambre d'Oberkampf dont je vous parlais tout à l'heure. On a l'impression d'être à la Comédie française déjà pour évoquer le bourgeois gentilhomme. Très jolie robe de chambre avec un effet. Alors d'abord, il faut vous dire qu'elle est dans une teinte olivâtre générale, très belle, en entièrement chinsé. Vous voyez, il y a un effet de brillant comme ça, assez étonnant, qui est obtenu par un enduit de cire et d'amidon, nous dit le cartel qui présente cette robe de chambre. Et puis, elle est doublée de taffetas, un taffetas qui est une sorte de bleu-vert très tendre, et elle est semée de petites fleurs des champs. Il y a des myosotis, il y a des petits liserons et des minuscules papillons. C'est d'un raffinement extrême. Les boutons sont tout à fait comme dans la même étoffe, et puis les boutonnières sont d'une finesse ravissante. Voilà quand même jusqu'à quel sommet de luxe et de raffinement on peut monter avec la toile de Jouy, Anne de Toisy. Qu'est-ce que vous avez voulu évoquer dans cette exposition temporaire qui s'appelle « Partie de campagne » J'ai envie de dire que la réponse est dans ma question.
Oui, d'ailleurs, c'est un petit peu un jeu de mots, partie de campagne au sens de, finalement, morceaux de tissu qui ouvrent
des morceaux de campagne aussi.
Morceaux de campagne, dans mon esprit, c'était ça. Donc, qui s'ouvrent à la fois sur ces ravissantes fleurs, tirées des albums d'encyclopédistes, mais aussi énormément de scènes champêtres, comme les Champs-Élysées, qui à l'époque étaient encore très bucoliques. Vous avez tous les jardins parisiens, avec le parc Monceau, qui appartenait au duc de Chartres, les jardins de Tivoli, et vous avez énormément de motifs floraux représentés.
Nous marchons sur une fausse pelouse au milieu d'appentis qui sont présentés comme des tonnelles, comme des pergolas. Tout ça est ravissant. Puisque nous sommes toujours en compagnie du grand décorateur Jacques Garcia, j'aimerais lui demander ce que ça lui évoque, ce côté bucolique.
Alors déjà, je crois que ce qui ressort quand on rentre dans la pièce, et je pense que le visiteur va être sensible à ça, et moi c'est quelque chose qui m'a toujours touché, c'est le côté anti-minimaliste.
Ah oui, non là, on n'est pas dans le minimalisme.
Voilà, c'est-à-dire cette relation à l'imaginaire personnel et à la possibilité de s'exprimer. Et je l'ai toujours dit, et je le répète encore, je préfère une mauvaise expression à pas d'expression, parce que c'est évidemment nettement plus gai à vivre. Et finalement, ici, ce qu'il y a de merveilleux, c'est ce sens du mélange. Donc c'est ça la toile de Jouy aussi. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que ça a été fait pour être avec des coordonnées.
Oui, voilà, c'est le mot que vous avez employé tout à l'heure, et c'est peut-être celui qu'il faut retenir leçon de décoration aujourd'hui.
Par exemple, je prends l'exemple de Bellevue, puisque je vous parlais tout à l'heure du Louvre. On sait qu'à Bellevue, mesdames avaient de la toile...
Mesdames, les filles de Louis XV.
Louis XV avaient des salons avec des meubles les plus riches qu'on puisse imaginer au moment, et sur les murs, des toiles dites d'indiennes. Bon, donc ces indiennes, évidemment, c'était des toiles de Jouy. Mais elles étaient bordées d'une ou deux bordures. Elles avaient des parties de dessins petits, de grands dessins.
Les rideaux
n'avaient pas le même dessin que le fond du mur. On jouait sur des jeux de mélange qui, évidemment, donnaient une harmonie et une complexité et à la limite, une philosophie plus intéressante.
Le temps file, malheureusement. Ici, il aurait plutôt tendance à s'arrêter. Jusqu'à quand peut-on visiter cette exposition Partie de campagne, Anne de Toisy?
Alors, cette exposition est présente au musée jusqu'au 3 janvier. Je tenais à dire que la scénographie ravissante a été faite par Philippe Modèle et que nous avons un très joli ouvrage.
Que nous connaissons et saluons avec plaisir.
Voilà, et que nous avons un très joli ouvrage sur l'exposition intitulée Partie de campagne qui reprend les grands thèmes traités ici, donc sur la galanterie.
Alors, j'aimerais que vous me disiez quelques mots quand même, Étienne Mallet, de cette association des Amis de la Toile de Jouy.
Écoutez volontiers, cette association, elle a deux buts principaux. D'abord, faire connaître ce patrimoine historique et toujours vivant qu'est la Toile de Jouy, et souvent plus connu à l'étranger qu'en France. Et l'autre objectif, c'est d'enrichir les collections et les trésors qui sont souvent enfouis chez les particuliers ou qui sont mis en vente dans les ventes publiques et que nous essayons d'acheter pour éviter qu'ils partent
ailleurs. Ça peut aller de pair, puisque s'il y a des passionnés aux États-Unis, je crois que les Américains et les Absolument. Américaines surtout sont folles de toiles de Jouy, mais en Inde aussi, par définition, vous pourrez peut-être avoir de grands mécènes qui vont vous permettre d'accomplir.
Écoutez, on espère, et c'est l'un des objectifs de cette nouvelle et jeune association, c'est de trouver les dons, les donateurs, les mécènes en France et à l'étranger. Et on se bat pour ça.
Jacques Garcia, ça vous donne envie de reprendre la toile de Jouy pour de nouveaux décors, ce que nous venons de voir là pendant cette heure enchanteresse?
Alors moi, j'ai jamais cessé.
Oui, c'est vrai, je le dis.
Donc j'ai jamais cessé. C'est pas ce qui paraît dans ce que je peux faire, parce que déjà, pour commencer, les maisons privées, elles sont par éthique privée. Donc les très belles maisons qu'on a pu faire, nous, les décorateurs, malheureusement, celles-là, elles sont jamais publiées. Mais je continue à dire que d'abord, c'est l'esprit de notre pays. Moi, j'ai toujours été un peu cocorico, je le revendique, et j'ai pas tellement envie de changer de point de vue. Maintenant, c'est un peu tard, en plus.
Oui.
Et un petit peu tard. Donc, si vous voulez, je resterai comme ça. Et, pardon. Et la toile de Jouy, est un élément qui, je crois, un des éléments qui sert beaucoup à cette, vous savez, on a voulu évoquer Marie-Antoinette avec ce film de Coppola, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe. En tous les cas, à travers ce film, ressort la toile de Jouy.
Eh oui,
ça ressort comme une grande modernité.
Ben oui.
Et finalement, on a peut-être envie de s'habiller qu'une petite robe de coton imprimée.
Il faut attendre le printemps pour aller visiter le château de champ de bataille à côté de, enfin,
oui,
au Neubourg.
Faut attendre, dans on ouvre au printemps, on ouvre à Pâques, hein, comme tous les ans. On y voit des nouveautés. Je crois que cette année, beaucoup de chance, c'est que ça pousse. Et enfin, on n'est plus dans une maquette, mais on est dans une chose à trois dimensions.
Merci en tout cas d'être venu nous rejoindre ici à Jouy-en-Josas. C'était un beau moment que nous venons de passer.
Merci.
Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck. Alors nous allons passer de la toile de Jouy à l'univers de l'électroménager.
Et certains il y a des ponts, évidemment.
Effectivement, il y en a pas mal. Certains d'entre eux sont des œuvres d'art. Je suis sûre que vous avez quelque chose de fantastique chez vous.
En matière d'électroménager ?
Oui.
Vous tombez pas très bien, je suis désolé.
Ah, mince.
Non, c'est pas moi.
Bon,
en toile de Jouy, mieux déjà, oui.
Bon, écoutez, les auditeurs, je suis sûre qu'ils auront des questions à poser. Comment être bien conseillé ? Comment être bien acheté ? Quel ustensile pour ma maison, pour ma famille ? Eh bien, c'est la question des experts qui attendent les vôtres au 39-21, 34 centimes d'euros la minute et sur europe1.fr.
Merci beaucoup, Elena. Bon week-end et nous nous retrouvons lundi, Julia.
À lundi, effectivement, Franck Ferrand, et profitez bien de Jouy-en-Josas, je suppose.
Mais oui,
que
nous y restons.
Oui, j'avais bien compris ça. À lundi sur Europe 1.